Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
On est ensemble jusqu'à 20h avec dans un instant le journal de Christophe Lamarre. Juste après, on ouvrira, comme tous les soirs, le débat du Club des Idées. Et ce soir, quand quelqu'un se fait passer pour vous, ça peut vite tourner au cauchemar. Que faire en cas d'usurpation d'identité? C'est un phénomène qui prend de l'ampleur à la faveur de la crise. Comment se protéger? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre? On en débattra d'ici 20 minutes. Juste avant, ce sera la carte blanche du jour avec ce soir Éric Emmanuel Schmitt qui nous vantera l'art d'ignorer en ces temps de crise. Eh oui. Mais d'abord, le point sur l'info avec vous, Christophe Lamarre. Il est 19h, merci d'écouter Europe 1.
12 mars 2020, 12 mars 2021, le quoi qu'il en coûte à un an, l'État a dépensé sans compter pour soutenir l'économie, mais c'est bientôt fini. Explication dès le début de ce journal.
La série noire continue pour AstraZeneca. L'Agence européenne du médicament évoque ce soir des cas d'allergie sévère après l'administration du vaccin.
À Metz, un collégien de 15 ans est en garde à vue. Il a menacé sa professeure de la tuer avec son couteau.
Viré pour être tombée enceinte en Italie, une volleyeuse se retrouve à la porte du jour au lendemain. L'affaire fait grand bruit, vous le verrez, jusqu'au sommet de l'État.
Après les théâtres, les cinémas entrent en dissidence. Une vingtaine de patrons de salles profitent de la cérémonie des Césars pour rouvrir leurs portes.
La météo, Anissa, Adadi, averse, giboulée et vent. Quel programme pour demain?
Oui, un programme pas très réjouissant, effectivement, pour ce début de week-end. Vent fort sur la moitié nord du pays, hein, jusqu'à 120-130 km/h sur les côtes de la Manche. Seules les régions du sud auront droit à un samedi ensoleillé et sec. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
L'économie sous perfusion, eh bien c'est bientôt fini. L'État s'apprête à mettre fin au quoi qu'il en coûte. Il ne s'agit pas de tout arrêter brutalement, mais plutôt d'y aller en douceur, même si le compteur tourne. La dette de l'État atteint déjà 120% du PIB, de quoi donner des sueurs froides à Bercy. Le ministre Olivier Dussopt a demandé l'arrêt du quoi qu'il en coûte en 2021, Louis de Ragnel. Eh bien, la question va être abordée lundi par l'exécutif.
Oui, absolument. Et vous l'avez dit, Christophe, et un conseiller du Premier ministre me l'a aussi dit clairement ce matin, on travaille au débranchement progressif des aides. Avec la vaccination qui doit progresser, l'exécutif estime que la situation sanitaire devrait s'améliorer au printemps. Et donc, mécaniquement, il fait le pari que l'économie repartira. Et la logique du gouvernement, c'est que si l'économie repart, eh bien, se pose la question du maintien du quoi qu'il en coûte. Alors attention, le sujet est extrêmement sensible, voire explosif. Le système d'aide bénéficie aujourd'hui à des millions de Français et permet d'amortir la crise économique et sociale. Il ne vous a pas échappé qu'il y a une présidentielle l'an prochain et évidemment le calendrier de désengagement de l'État aura un impact politique fort. Mais ce qui est intéressant, pour la première fois, le gouvernement reconnaît travailler sur un calendrier et un dosage pour sortir du quoi qu'il en coûte. Enfin, dernière information, le Premier ministre qui recevra lundi prochain les partenaires sociaux à Matignon a en tête d'obtenir avec eux un accord de méthode pour y parvenir.
Et vous suivrez ça pour nous, bien sûr. Louis Dragnel, du service politique d'Europe 1. L'État qui ne pourra pas trop compter sur un rebond de croissance au premier semestre, l'INSEE estime en effet que le PIB augmentera de 1% seulement. Le manque à gagner pour l'économie française pourrait s'élever à 43 milliards d'euros à la fin du premier semestre, insuffisant pour espérer compenser la chute historique de l'an dernier.
Que se passe-t-il avec le vaccin d'AstraZeneca? L'Agence européenne du médicament signale des cas d'allergie sévère.
On rappelle que 4 pays ont suspendu pour l'instant provisoirement la vaccination avec ce sérum en raison de doutes sur la formation de caillots sanguins. Pour l'instant, le lien n'est pas établi. En France, le ministre de la Santé n'entend pas suspendre cette vaccination. Et voilà maintenant qu'on reproche au vaccin de provoquer également, dans certains cas, des allergies sévères. Est-ce que c'est un nouveau coup dur, Virginie Salmen?
Eh bien, pas vraiment. C'est peut-être plutôt un effet pervers de la transparence à outrance sur ces vaccins. Pour les médecins spécialistes, ces allergies sévères ne sont pas surprenantes. Beaucoup de sérums induisent ce type de réaction. C'est aussi le cas du vaccin Pfizer, nous explique le chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, le professeur Jean-Daniel Lelièvre.
Il y a des allergies sévères avec le vaccin Pfizer, on le savait. On se doutait qu'il pourrait y en avoir avec le vaccin AstraZeneca. Et c'est la même chose, je dirais, avec tous les vaccins. Après, c'est la fréquence de ces allergies qui restent très peu fréquentes. Pour ce qui est des risques de thrombose, si vous regardez les données de l'Agence nationale du médicament, la ANSM, et des rapports réguliers qui sont faits sur la ANSM, vous verrez que ces phénomènes de thrombose ont été également rapportés chez des gens qui avaient pu recevoir le vaccin Pfizer avec une fréquence qui est exactement la même.
D'ailleurs, il n'y a aucun lien établi entre le vaccin et la survenue de ces thromboses. Vu le nombre de personnes vaccinées, 5 millions en Europe, 30 thromboses dont un mort, ce sont sont des chiffres même en dessous des moyennes habituelles. Pour le professeur Lelièvre, les décisions des pays comme le Danemark, la Norvège, l'Islande et la Bulgarie de suspendre provisoirement la vaccination avec le sérum AstraZeneca est une erreur qui pourrait coûter plus cher en victimes du Covid.
Virginie Salmen, la France qui donne à son tour le feu vert au vaccin Johnson & Johnson. Une seule dose de ce sérum suffit. La Haute Autorité de Santé recommande de l'utiliser dans les zones où l'épidémie est particulièrement active.
Vous savez que 23 départements, dont tous ceux de la région parisienne, sont actuellement placés en surveillance renforcée. En Île-de-France, les autorités sanitaires se préparent à transférer les premiers patients vers des régions et des hôpitaux où la tension est moins forte.
Et le temps presse, on vient de franchir la barre des 4000 malades en réanimation avec 306 nouvelles admissions en 24 heures. Il faut remonter à novembre l'année dernière pour retrouver un tel seuil.
Notez que la majeure partie de l'Italie confrontée à la troisième vague de la pandémie sera de nouveau confinée à partir de lundi. À Metz, un collégien de 15 ans est en garde à vue pour avoir menacé sa professeure.
Oui, ça s'est passé au collège pendant la pause. L'adolescent a tenté de l'agresser avec un couteau, mais l'enseignante a réussi à prendre la fuite. Personne n'a été blessé et le collégien a été interpellé. Mais l'affaire est prise très au sérieux, Mélina Fachin.
Oui, il est un peu plus de 10 heures ce matin lorsque ce collégien de 15 ans, scolarisé en 3e, menace sa professeure de mathématiques armée d'un couteau. L'enseignante et son élève se trouvaient alors seuls dans une salle de classe et tout serait parti d'une discussion autour des mauvaises notes du garçon, comme l'explique Jean-Michel Huard, recteur de l'Académie de Nancy-Metz.
Il y avait une discussion sur un sujet scolaire. C'était un élève qui, manifestement, avait des difficultés scolaires. Le professeur indiquait à l'élève qu'il allait voir sa famille. Et voilà, c'est à ce moment-là que ça a dérapé.
L'enseignante arrive à s'enfuir, prévient immédiatement la direction qui appelle la police. Au même moment, il semble que l'adolescent compose lui aussi le 17 pour se dénoncer. Aucun autre élève n'a assisté à la scène. Les cours ont été brièvement interrompus, mais tout est vite rentré dans l'ordre. Élise, collégienne, est très étonnée par l'attitude de son camarade qui venait d'arriver dans cet établissement il y a un mois à peine.
Ça me surprend. Ça va, il avait l'air gentil, enfin... Non, il avait l'air drôle, il restait avec ses amis, il était plutôt discret, enfin, ça allait.
Le garçon de 15 ans est toujours en garde à vue ce soir.
Les précisions de Mélina Fachin à Metz. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, au tribunal pour être confronté à la plaignante, à la femme qui l'accuse de viol. C'est une première dans ce dossier depuis la plainte initiale qui remonte à 2017. Et puis Doc Gynéco sera jugé en correctionnel. Le rappeur est placé sous contrôle judiciaire en attendant sa convocation au tribunal. Il est accusé d'avoir giflé son épouse à plusieurs reprises.
Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
18h10, c'est la suite du journal de Christophe Lamar sur Europe 1. Et c'est une histoire, 19h10 même, je vous ai dit 18h. C'est une histoire en tout cas qui fait beaucoup de bruit. En Italie, Christophe, celle de cette volleyeuse licenciée pour être tombée enceinte.
Elle s'appelle Lara Lugli, elle joue, ou plutôt elle jouait en première division dans le championnat italien. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte effectivement. Et c'est là que les choses se sont compliquées pour elle, Simon Rubin.
Oui, puisqu'à l'annonce de sa grossesse en mars 2019, son club a décidé de la licencier et même de l'attaquer en justice au motif que cette grossesse et donc l'absence de la sportive compromettait la performance de l'équipe. Alors, Lara Lugli vient de révéler cette histoire en Italie. Depuis, plusieurs ministres se sont mêlés à l'affaire, soutenant la joueuse de 41 ans. Ce qui est intéressant, c'est que cette affaire, elle n'est pas isolée. Partout dans le monde, dans tous les sports, on trouve des clubs, des fédérations qui imposent des clauses aux sportives, des clauses de performance avec baisse du revenu, voire licenciement en cas de baisse du niveau. Alors récemment, c'est la marque Nike qui a été épinglée justement pour vouloir réduire le salaire de ses athlètes enceintes. Face à la gronde des sportives, la marque américaine a finalement stoppé la pratique. Et puis il y a quelques mois, c'est la FIFA qui avait décidé d'agir avec la création d'un congé maternité historique, obligatoire, de 14 semaines minimales, rémunéré. Mais là encore, il a fallu un long combat des sportives pour qu'enfin on leur accorde un droit, un respect élémentaire.
Simon Rubin du service des sports d'Europe 1. En football féminin, tiens, le choc PSG-Lyon prévu demain est reporté après la découverte de plusieurs cas de Covid chez les joueuses et membres du staff parisien. Et puis le football toujours, mais côté homme, avec le premier match de la 29e journée de Ligue 1 ce soir. Reims accueille Lyon, coup d'envoi à 21h. Et puis on l'a appris ce soir également, Angel Di Maria signe pour une année de plus avec le PSG. Il sera parisien jusqu'en 2022.
C'est une bonne nouvelle, non? La 46e cérémonie des Césars, on en parlait tout à l'heure avec mon invité Jean-Pascal Zadi, cérémonie ce soir à l'Olympia. Alors on a l'habitude de parler de la fête du cinéma, mais certains patrons de salles ont plutôt envie d'entrer en résistance.
Après le mouvement d'occupation des théâtres, c'est peut-être le début d'un autre mouvement, celui de la libération des cinémas. Cela fait maintenant près de 5 mois qu'ils n'ont pas vu un spectateur dans les fauteuils.
Oui, le secteur souffre beaucoup et c'est encore plus vrai pour les petits exploitants. Et bien, une vingtaine d'entre eux ont décidé de rouvrir demain, comme Gauthier Labrusse. Il est directeur du cinéma Luc à Caen et il a prévu d'organiser 3 séances publiques.
Demain, on accueille du vrai public. On se limite à des jauges à 30%. C'est l'occasion, avec des films inédits, de prendre la température des spectateurs pour mieux cibler la sortie des films, mieux accompagner les films.
Est-ce que c'est aussi et surtout un acte militant ?
Oui, bien sûr. On n'a pas choisi le jour par hasard. Ce qu'on fait demain, c'est aussi en solidarité avec nos amis du spectacle. C'est symbolique parce que ça fera précisément un an que notre salle aurait fermé pour la première fois. Donc évidemment, c'est la symbolique est là, le lendemain des Césars aussi, pour demander une réouverture rapide des salles parce qu'on... On frôle la catastrophe, là.
Gauthier Labrusse, directeur du cinéma Lux à Caen, il répondait à Angèle Châtelier.
C'était le journal de Christophe Lamarre. Merci à vous, Christophe, et très bon week-end. La météo, Anissa, vous nous confirmez que ce sera une journée agitée demain, donc. Hein.
Oui, pas terrible hein, pour ce week-end, avec des pluies battantes qui vont balayer tout le pays. Personne n'est épargné. Si, le sud de l'Occitanie jusqu'à la Côte d'Azur, là, le temps est sec. Très ensoleillé le matin, un petit peu plus nuageux dans l'après-midi. Partout ailleurs, c'est pluvieux. Alors les pluies battantes, elles vont se déplacer avec la perturbation qui avance vers le sud. D'abord le nord, toute la moitié nord demain matin, avec des rafales de vent jusqu'à 120 km/h sur les côtes de la Manche, 80-90 km/h dans les terres en région parisienne ou encore sur les Pays de la Loire. Et puis dans l'après-midi, de la Gironde à l'Alsace, en passant par l'Auvergne, c'est là que les pluies seront les plus fortes, avec là aussi des vents forts. Allez, un petit mot, parce que je sais que ça vous intéresse, Isabelle. Est-ce que tout ça va se calmer ?
Eh oui, bien sûr.
Bon, allez, à partir de mardi, on aura un petit peu moins de pluie. Ça reste humide sur certaines régions, mais le temps redevient lumineux à partir de mardi, mercredi. Les températures pour demain, 1 à 9 le matin, 9 à 19 au meilleur de la journée.
En attendant, je sens que vous allez regarder des séries ce week-end sous la couette, Anissa.
Ah bah, les
merci.
Césars déjà ce soir, et puis les séries ce week-end.
Très bon week-end, Anissa. 19h13, dans un instant, les tentatives de fraude à l'identité qui ont grimpé en flèche depuis le début de la pandémie. On verra comment s'en prémunir, mais d'abord, c'est la carte blanche du jour.
Europe Soir, Isabelle Millet.
Je vous demande de vous arrêter.
Et je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide.
C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Et ce soir, c'est Éric Emmanuel Schmitt qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir Éric Emmanuel.
Bonsoir Isabelle.
Alors ce soir, c'est un coup de cœur un peu particulier que vous voulez partager avec nous.
Oui, je voudrais défendre un art dont on ne parle pas assez souvent, l'art d'ignorer. En cette période troublée où nous manquons de repères, pratiquons l'art d'ignorer, il nous aidera à traverser cette crise.
Alors là, vous me surprenez un petit peu, nous avons plus besoin quand même de savoir que d'ignorer, non, pour traverser cette crise.
Mais l'un ne va pas sans l'autre. Qu'est-ce que savoir ? Posséder des connaissances partageables par tous, des vérités universelles. Exemple, en mathématiques, le raisonnement mène chacun de nous au même résultat. En science, le physicien utilise une méthode, il observe les phénomènes, il émet une hypothèse explicative dont il vérifie ensuite la justesse ou la fausseté en multipliant des expériences. Les autres arriveront à un résultat identique. L'homme de savoir sait quand il sait. Il sait quand il ne sait pas. Il est lucide, clair et réservé. Il saisit ses limites. Son savoir est autant une conscience de savoir qu'une conscience d'ignorer. C'est parce qu'il sait savoir qu'il sait aussi ignorer.
Si je vous suis bien, dire « je ne sais pas », finalement, c'est une preuve de savoir.
Exactement. Le savant n'a pas de problème avec l'ignorance. Il la déteste, il la traque, il se démène pour la réduire, mais il ne la remplace jamais par un pseudo-savoir. Bref, le savant a la compétence de cerner là où il est incompétent. Reconnaître son incompétence demande beaucoup de compétences. Or aujourd'hui, nous assistons à une déferlante de pseudo-savoir. Combien de fois avons-nous entendu cette phrase « Je ne suis pas médecin, mais... » Alors, le début est honnête, mais d'une honnêteté provisoire vite dépassée par les énoncés suivants où le parleur débite des certitudes infondées. Ce comportement porte d'ailleurs un nom, l'ultra-crépidarianisme.
Ouh là là, ultra-crépidarianisme.
Oui, ça, c'est un mot tellement long qu'on peut même pas le placer au Scrabble, hein. 18 lettres. Alors, la crise sanitaire nous a fait redécouvrir ce mot. Qu'est-ce ? c'est parler d'un sujet avec certitude sans avoir aucune compétence.
Et ça vient d'où ?
L'écrivain Pline l'Ancien nous raconte que dans la Grèce antique, le peintre Apelle exposait ses œuvres aux passants. Un jour, un cordonnier a critiqué le dessin d'une sandale. Apelle corrigea aussitôt son tableau. Le lendemain, le cordonnier enhardi a critiqué la jambe. Apelle a répondu « cordonnier, pas au-dessus de la chaussure », en latin « sutor ne supra crepidam ». Aujourd'hui, les discours au-dessus de la chaussure pullulent. La France comprend maintenant des millions d'épidémiologistes, de biologistes et de chimistes.
Mais les gens ont quand même le droit d'avoir un avis. Hein.
Les gens ont le droit d'avoir un avis, mais ils doivent savoir que c'est un avis, pas une connaissance. La science n'a pas besoin de mon avis ni de mon acquiescement, elle est science et elle emporte l'adhésion de toute intelligence rationnelle. Or, depuis un an, on lit des sondages aberrants. Les Français ont jugé que l'hydroxychloroquine était un bon médicament, sans avoir une étude expérimentale concrète. Maintenant, certains proclament que les vaccins sont mauvais, c'est une croyance, rien d'autre, ou que ce vaccin-là est dangereux, sans avoir consulté la moindre enquête scientifique. Attention, une opinion ne constitue pas une information. Une opinion soutenue avec conviction impressionne, rassure, parfois rassemble, mais elle ne se transforme pas en vérité. Il faut distinguer, affirmer et savoir. Cela fait partie de l'art d'ignorer. Cependant...
Oui, cependant ?
Eh bien, cependant, il est des disciplines où il n'y a pas de savoir. En morale, en politique, il n'existe pas des vérités éprouvées, mais des choix, des hypothèses, des prévalences. Ces domaines humains ne rentrent pas dans le champ de la science, celui du vrai ou du faux. Ils demeurent dans les marais du peut-être. En morale, en politique, on fait ou on décide sans pouvoir être certain. Il n'y a pas d'experts. Pour cette raison, je crains que ceux qui invoquent trop l'ultra-crépidarianisme ne s'en servent que pour dire « taisez-vous, vous ne savez pas ». Cela devient une manière de museler les gens, de dénier leurs paroles. Or, en politique, en morale, comme il n'y a pas de vérité, il doit y avoir débat, affrontement, réflexion.
Oui, tout ne relève pas de la science. Hein.
Oui, là où la science reste inopérante, la confrontation des points de vue s'avère essentielle. Voilà ce que j'appelle l'art d'ignorer, Isabelle. Il existe sur deux plans. D'un côté, savoir qu'on ne sait pas, là où il est possible de savoir. Bref, avoir la conscience de son ignorance. D'un autre côté, intervenir dans l'espace où il n'y a pas de certitude, mais seulement des avis. Et là, on pratique la démocratie, le débat, mais avec tolérance, humilité, en usant d'arguments, puisqu'il n'y a pas de preuves. Dans l'art de l'ignorance, il y a deux modesties. La modestie de ne pas savoir et la modestie d'affirmer.
Eh bien, on va pouvoir méditer là-dessus tout le week-end. L'art d'ignorer en temps de crise. Merci beaucoup. C'était la carte blanche d'Éric Emmanuel Schmitt.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
19h21, on ouvre notre débat du Club des idées consacré ce soir à un phénomène qui s'est, semble-t-il, encore amplifié avec la crise et l'utilisation massive des outils Internet, les tentatives de fraude à l'identité. On en parle avec mes invités ici en studio. Jimena Díaz, vice-présidente Europe du Sud chez Onfido. Vous nous expliquerez exactement ce que c'est. Mais Onfido, c'est un spécialiste de la vérification d'identité et de l'authentification en ligne. Également à mes côtés, Marie-Camille Eck, qui est avocate au barreau de Paris. Bonsoir à toutes les deux.
Bonsoir.
Et Jérôme Bertin, qui est directeur général de France Victimes. Bonsoir, bonsoir, merci beaucoup de m'accompagner ce soir pour ce débat qui s'annonce riche. Alors, je le disais, les fraudes à l'identité en tout genre ont augmenté partout dans le monde avec la pandémie. J'ai vu ces chiffres assez impressionnants. 33% par exemple d'augmentation au Royaume-Uni pendant le premier mois du confinement, c'est énorme. Quels sont les chiffres pour la France, Jimena Díaz ?
Alors justement, donc, merci beaucoup de m'inviter à ce débat. Et donc, on a fait une étude avec Onfido sur l'évolution. On le fait chaque année, mais cette année, elle était particulière, puisque du fait de la pandémie, on voulait voir quels étaient les impacts. Et en France, on a vu une augmentation de 29% des tentatives de fraude, effectivement, des fraudes à l'identité. Donc, comme vous le disiez, nous, on se consacre essentiellement à la vérification des pièce d'identité en ligne à distance pour limiter cette usurpation d'identité potentielle.
Alors 29%, c'est énorme. On a une idée du nombre de personnes que ça peut concerner en France ?
Alors cela représente environ une évolution qui nous a fait passer de environ 4,1 à 5,8% au total. Et puis surtout, en fait, ce qu'on sait, c'est qu'il s'agit essentiellement d'une croissance qui a démarré en avril, donc bien évidemment, donc qui n'était pas présente en début de l'année dernière et qui a surtout eu un pic de croissance jusqu'en juin. On pense, donc notre étude, elle va de octobre à octobre, donc on pense que la fin de l'année avec des nouveaux confinements, la fin de l'année 2020 avec des nouveaux confinements et surtout avec les fêtes de fin d'année, ouais, les soldes
les
achats en ligne qui augmentent massivement, la digitalisation ont eu des impacts assez importants et on s'imagine qu'on aura des augmentations en ce début d'année.
Également très importante. Les usurpations d'identité, ça peut prendre plusieurs formes. On aura des exemples concrets ce soir. On va appeler des victimes, parce qu'il faut les appeler comme ça, qui nous raconteront leur calvaire. C'en est un, on va le voir. Qu'est-ce qui fait que la pandémie a accentué ces fraudes à l'identité ? On a commencé à l'évoquer un petit peu. Jérôme Bertin, c'est quoi ? C'est le télétravail, les achats en ligne ?
C'est un ensemble de choses, mais en effet, comme vous le disiez, la digitalisation ayant été au cœur de l'activité des Français, que ce soit pour leurs achats, que ce soit pour la gestion quotidienne d'une vie ou leur travail. Évidemment, les escrocs qui sont jamais à court d'idées ont profité de la situation. Et vous parliez de chiffres. Nous, on constate à France Victime une augmentation de 70% des appels sur les usurpations d'identité.
70%, ah oui, ce sont des chiffres encore plus importants que ceux qu'on vient d'entendre.
Ouais. Et alors, il y a l'usurpation d'identité en tant que telle. Hein. On usurpe, c'est le cas de votre identité, on vous vole vos identifiants, vos identités. Mais il y a aussi toutes les victimes d'escroquerie du fait d'une usurpation de qualité ou d'identité. C'est-à-dire qu'on se fait passer pour un support technique, pour une banque, pour un organisme, pour vous soutirer de l'argent. Donc ces phénomènes, en effet, ont vraiment été amplifiés. Et puis, il y a, vous l'avez dit, les achats en ligne, etc. Tout le monde sachant que nous utilisons beaucoup plus le digital aujourd'hui, il y a des gens qui sont évidemment moins vigilants, plus fragiles, plus vulnérables, et on en profite.
Et on est des cibles de plus en plus faciles. Marie-Camille Heck, en tant qu'avocate, est-ce que vous avez vous aussi constaté qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent vers vous pour vous saisir de ce genre d'affaires d'usurpation d'identité ?
Tout à fait. Je suis ahurie des chiffres qu'on m'indique aujourd'hui, mais moi je le ressens également quotidiennement. J'ai de plus en plus d'appels de victimes qui me demandent mon aide pour les aider à résoudre leur situation.
Bon, vous nous donnerez des exemples tout à l'heure. Quelles sont les premières victimes de ces fraudes ? On parle là des particuliers ou des entreprises, Rimena Dias ?
Alors, essentiellement, c'est les deux. Et pour différentes raisons. Donc, juste pour commenter ce que vous disiez, il y a d'un côté, il y a deux éléments qui se retrouvent toujours dans les crises et qui sont assez connu pour développer ensuite des tentatives de fraude d'identité, c'est d'un côté les opportunités. Et donc la digitalisation a créé énormément d'opportunités pour les fraudeurs de tenter de frauder. Et le deuxième cas et le deuxième élément, c'est clairement le besoin. Donc effectivement, il y a un certain nombre de gens qui se sont retrouvés en situation de crise et de difficulté,
ouais,
et qui ont qui ont profité de cette occasion pour tenter des fraudes. Ce que nous, on a vu qui était assez surprenant, c'est que la plus grande augmentation était celle des fraudeurs occasionnels, de ceux qui ne sont pas professionnels. C'est eux qui ont vu beaucoup plus d'opportunités dans cette digitalisation. Et on a vu aujourd'hui une croissance qui était de 25% en France. Quand elle est que, bon, ça reste quand même important, mais elle est que de 23% au niveau global. Donc la France a vu une augmentation plus importante des fraudeurs occasionnels. Et ces fraudeurs, donc aujourd'hui, représentent 2/3 des tentatives de fraude.
Ah oui.
Alors, c'est quoi un fraudeur occasionnel ? C'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude, mais qui profite de l'opportunité. Et en voyant effectivement des gens arriver dans le monde digital qui n'avaient pas l'habitude d'y être non plus, puisque cette digitalisation a poussé des gens qui n'avaient pas l'habitude de faire des achats en ligne à se retrouver à le faire, ça a été aussi plus difficile de détecter des changements d'habitude qui pourraient donner l'alerte à une banque ou dire attention, en fait, c'est étrange, ces transactions sont étranges. Tout a été bousculé l'année dernière et depuis le début de l'année 2020. Et donc, c'est beaucoup, les cas de fraude se retrouvent un peu fondus dans la masse des transactions en ligne qui augmentent massivement.
C'est très intéressant ce que vous nous dites là, ces nouveaux fraudeurs qui profitent de la crise. On va poursuivre ce débat dans un tout petit instant. On aura notamment des victimes en ligne. On verra combien, une fois qu'on est pris dans ce piège, combien c'est très compliqué d'en sortir. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
19h30, on poursuit sur Europe 1 notre débat. On parle ce soir d'un phénomène en recrudescence, l'usurpation d'identité. C'est un fléau qui, selon le Crédoc, en temps normal, concernerait environ 210 000 personnes par an en France, mais beaucoup plus, hein, c'est ce que nous ont dit il y a quelques instants mes invités, beaucoup plus depuis le début de la pandémie. On a constaté une augmentation de 29% des tentatives de fraude en France depuis cette pandémie. On continue d'en parler avec Rémena Dias, qui est vice-présidente Europe du Sud chez Onfido, qui est un spécialiste de la vérification d'identité, avec Marie-Camille Heck, qui est avocate au barreau de Paris et qui s'occupe justement de ces cas d'usurpation d'identité, et avec Jérôme Bertin, directeur général de France Victimes. Alors, je voudrais qu'on prenne tout de suite un témoignage en ligne, parce que c'est important pour qu'on comprenne bien de quoi on parle ce soir. Bonsoir Marine.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous en direct ce soir sur Europe 1, parce que j'imagine que ce n'est pas forcément facile de raconter votre histoire. Alors Marine, vous avez 29 ans, vous avez été victime d'une usurpation d'identité en 2019. À l'époque, vous cherchiez un appartement, vous avez fait comme on le fait tous, hein. Vous avez envoyé un dossier par mail à plusieurs agences, à des particuliers. Dans ce dossier, il y avait votre carte d'identité, vos bulletins de salaire, vos feuilles d'imposition. Et puis, quelques mois plus tard, racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez eu un appel de la banque.
Oui, j'ai reçu un appel de la banque qui m'a indiqué que j'avais souscrit un emprunt pour la somme de 20 000 euros. Et c'était un crédit à la consommation pour acheter un véhicule. Et donc, ils m'ont indiqué que je ne versais pas les échéances et qu'il y avait un souci. Donc, moi, je leur ai indiqué que je n'avais jamais souscrit d'emprunt. Et ils m'ont dit, a priori, il s'agirait d'une usurpation d'identité. Donc ils m'ont dit qu'il fallait absolument que j'aille porter plainte auprès de la police et que je fasse les démarches nécessaires auprès de la Banque de France pour ensuite leur envoyer les informations.
Et j'imagine, au moment où vous avez appris ça, ça doit faire un choc quand même de vous dire qu'il y a quelqu'un qui a usurpé votre identité. Comment est-ce que vous l'avez vécu ?
Ouais, j'étais complètement paniquée sur le coup. Je n'ai pas du tout compris comment c'était possible. J'ai pas pensé au début à mon dossier d'appartement. Je ne comprenais pas non plus comment c'était possible qu'un prêt soit octroyé à quelqu'un sans voir la personne. Donc en fait, c'est vrai que les crédits à la consommation, ça peut être des crédits en ligne, donc c'est plus facile. Donc j'étais sur le coup, je comprenais pas du tout. Et après, je me suis renseignée sur Internet et j'ai vu que ça arrivait très très souvent et que c'était fort possible que ce soit lié à mon dossier d'appartement.
Et donc vous avez porté plainte.
Et donc du coup, ensuite, je me suis rendue à la police, j'ai porté plainte et j'ai demandé aux gendarmes comment ça allait se passer. Ils m'ont indiqué que c'était hyper courant à Paris et que mon dossier serait probablement classé sans suite, car c'est très difficile d'arriver à retrouver les personnes qui sont les auteurs de cette usurpation.
Mais alors dites-nous, Marine, vous n'avez pas dû rembourser cet emprunt que vous n'aviez pas souscrit ?
Alors non, dans ce cas-là, ce qui s'est passé, c'est que la banque a fait l'enquête et comme ils ont identifié qu'il y avait une usurpation, moi, j'ai donné toutes les preuves nécessaires pour montrer qu'ils ne pouvaient pas venir me poursuivre et que je ne verserais pas l'argent.
Et comment est-ce qu'ils ont vu qu'il y avait une usurpation ?
Il n'y aurait pas de suite.
Comment est-ce qu'ils ont vu qu'il y avait une usurpation ? Ils vous ont cru sur parole ? Vous avez dû présenter des papiers ?
Alors oui, j'ai dû refournir tous mes papiers d'identité et bien sûr la plainte de la police, les courriers de la Banque de France pour prouver aussi que j'avais fait les démarches auprès de la Banque de France. Et ensuite, ils ont su puisque mon identité était exacte, c'est-à-dire mon nom, prénom, date de naissance était exacte, mais ensuite l'adresse postale n'existait pas, n'était pas mon adresse, le numéro de téléphone n'était pas le mien et les comptes bancaires sur lesquels le prêt était versé n'étaient pas non plus les miens.
Alors, vous allez rester en ligne avec nous, Marine, parce que votre histoire, malheureusement, ne s'arrête pas là. Ce qui est arrivé à Marine, ça peut tous nous arriver, parce que quand on nous demande des infos pour louer un appartement, on est bien obligé de les fournir, Marie-Camille Heck.
Alors, il faut toujours faire preuve de vigilance quand on ne sait pas qui est l'interlocuteur à qui on parle.
Or, mais quand on va voir une agence de location, par exemple.
Justement, généralement, ce type de situation qu'a rencontré Marine se retrouve en général quand on répond à une annonce sur un site d'annonce en ligne et que le propriétaire demande via l'application concernée la transmission de tout le dossier de location.
Donc ce sont des documents qui sont transmis par Internet, hein, pas des papiers qu'on va donner
exactement.
En main propre à une agence de location en bas de chez soi.
Le problème, c'est que le secteur est tellement tendu, le secteur de la location dans certaines villes, les propriétaires se croient tout permis et les locataires sont désespérés de trouver un logement. Du coup, ils n'hésitent pas quand on leur demande, quand on leur explique qu'il va y avoir une présélection sur dossier, ils envoient spontanément tout leur dossier, éventuellement celui également du garant, et l'usurpateur se retrouve avec tous les documents nécessaires pour pouvoir ouvrir un compte.
Mais c'est qui cet usurpateur ?
Ah ben ça, je ne suis pas derrière l'écran
d'ordinateur. C'est quelqu'un qui va aller piquer les données ? C'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'appartement en question ?
Généralement, c'est des annonces complètement bidons, assez attractives pour attirer un maximum de personnes. Souvent, c'est même un duplicata d'une annonce existante. Mais avec les informations qui sont modifiées, une adresse différente, un prix généralement bien, bien inférieur au prix de la véritable annonce. L'usurpateur, donc l'escroc, met en ligne l'annonce. Il récupère par ce biais un maximum d'éléments d'un maximum de personnes. Les gens, souvent, comprennent qu'il y a un problème parce que, après avoir eu quelques réponses à leur message, soudainement, ils n'ont plus aucune nouvelle de la part du prétendu propriétaire. Et très souvent, là, ils disent que ça devait être une escroquerie et ils redoutent l'usurpation d'identité.
Vous pensez que vraiment les gens se disent ça ? Par exemple, Marine, vous êtes toujours avec nous. Marine, vous vous êtes posé cette question, vous, quand vous avez envoyé votre dossier de location ?
En fait, ce qui s'est passé, nous, on était désespérés. C'est exactement la situation que Marie-Camille décrit. Et en fait, on a postulé à beaucoup d'annonces et des annonces qui, probablement, exactement l'exemple qu'elle a donné, ont été dupliquées avec des offres assez attractives. Donc, je pense qu'on n'a vraiment pas été assez vigilants là-dessus, c'est sûr. Et on ne s'est pas posé assez de questions quand on a transmis nos informations, notre dossier.
Ouais, c'est facile à dire ça, Jérôme Bertin, directeur général de France Victimes. Quand on ne sait pas que ça existe, ce genre d'arnaque, on peut tous faire cette erreur. Hein.
Oui, mais c'est ce qu'on constate au 116 006, au numéro de téléphone que nous avons. C'est exactement ce type de situation. Alors là, ce sont des fausses annonces de logement, mais ça peut être derrière des souscriptions de crédit, des fausses lignes téléphoniques, L'escroc va en effet utiliser tout ce qu'il a pu récupérer pour souscrire pour lui-même déjà des crédits, des lignes téléphoniques ou autres. Donc en effet, il faut être vigilant, mais vous avez raison, c'est pas aussi simple que ça.
Il y a des éléments en revanche importants
dont a parlé Marine qui sont pas à négliger. Elle parlait en effet d'une plainte classée sans suite. Certes, c'est très compliqué de retrouver les escrocs. Mais la plainte, elle est nécessaire pour elle-même déjà, parce que ça vient étayer la bonne foi de la victime. C'est-à-dire qu'on ne dépose pas plainte pour rien. Donc ça va permettre quand même une enquête, ça va permettre de démontrer qu'on est de bonne foi déjà. Ça peut aussi quand même permettre quelquefois des enquêtes de plus grande ampleur. Et quand on n'est pas forcément sur des escrocs opportuns, ça peut permettre de faire quand même tomber des systèmes des organisés. Puis il y a un autre élément important qu'on oublie souvent, c'est les répercussions psychologiques de ces affaires-là.
J'imagine,
parce qu'en effet, c'est un parcours du combattant, c'est une spirale infernale, parce que derrière, il peut y avoir en effet des interdits bancaires, même des banques qui vous refusent. Il peut y avoir ensuite des créanciers ou des personnes en tout cas qui pensent être créanciers, qui vous harcèlent, etc. Enfin voilà, les conséquences sont assez lourdes.
Oui, ça peut vous suivre plusieurs années.
Et on en tient compte à France Victimes, on est vigilant par rapport à ça.
Marie-Camille Heck, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Oui, je voulais simplement rebondir et insister sur le fait que le dépôt de plainte, il est indispensable. Quel que soit, parce que parfois, on n'est pas toujours très bien accueilli quand on est victime. Hein, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc, il faut vraiment insister et il faut déposer plainte. À minima, quand on est au stade où on pense qu'on va peut-être être victime, mais qu'on n'est pas encore certain d'être victime, il faut au moins déposer une main courante.
Oui, à minima.
Ça, c'est la priorité, c'est la première chose à faire.
Et ensuite, je rebondis sur effectivement ce que ressentent les victimes. Moi, ce que me disent mes clients, c'est terrible ce dont ils ont connaissance et qu'ils vivent. Mais le pire, c'est qu'ils se demandent qu'est-ce qui va arriver demain. Qu'est-ce que l'usurpateur, potentiellement, a fait d'autre en mon nom.
Oui.
Et c'est cette incertitude qui est, je crois, pour mes clients, la pire des choses.
Parce
ne
que
pas
cet usurpateur, il peut aussi commettre des délits, par exemple, Imena Dias, hein, on peut l'imaginer.
Ben, en tout cas, il peut clairement essayer d'utiliser ces informations pour, comme on disait, ouvrir un compte. Là, en l'occurrence, c'était un cas d'une tentative de crédit. Donc, bien évidemment, l'usurpateur, il va essayer d'utiliser cette information pour gagner en général de l'argent, ou pour participer. Et donc, nous, quand on a fait notre étude, on collabore assez souvent avec Interpol parce qu'il y a des problématiques qui sont liées au financement du terrorisme. Donc, vous ne savez pas ce qu'il y a potentiellement derrière un usurpateur.
Ouais.
Donc, ça peut aller très loin. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention. Nous, dans les recommandations qu'on peut donner, il y a essentiellement celle de ne pas éviter de transmettre des photos ou des scans des pièces d'identité à des gens que vous ne connaissez pas, à des particuliers ou autres, ou par exemple d'éviter de les garder dans le cloud, de les garder potentiellement dans votre ordinateur, de ne pas mettre la photo d'une pièce d'identité dans un réseau social, parce que bien évidemment, il est facilement récupérable. Donc,
mais par exemple, si je photographie ma pièce d'identité, je la garde dans mes photos, elle va dans le cloud, ça peut être dangereux.
Ben, disons que à chaque fois que les choses se retrouvent dans le cloud, il y a potentiellement, il peut y avoir plus de risques. Après, ce qui arrive souvent, c'est les gens, par exemple, les jeunes qui viennent d'avoir leur permis de conduire et qui font une copie, font une photo.
Parce qu'ils sont fiers de montrer à leurs copains qu'ils ont eu leur
permis.
Mais
ils ne se rendent pas compte qu'il y a beaucoup d'informations qui sont dans les réseaux sociaux par la suite de cette photo.
Ouais. Marine, je voudrais qu'on revienne à vous. Je disais qu'il y a certains usurpateurs qui pouvaient commettre des délits. Dans votre cas, la deuxième fois que vous avez été alertée, c'est parce que vous avez eu un retrait de points sur votre permis de conduire, alors que vous n'avez pas de voiture et que vous n'étiez pas du tout à l'endroit où vous étiez supposé avoir fait cette infraction.
Oui, c'est ça, exactement. J'ai reçu un courrier me disant que j'avais un retrait de points de permis. Et moi, je n'ai pas de voiture, je n'étais pas au même endroit à ce moment-là. Donc là, je me suis dit qu'on avait encore utilisé mon identité. Je me suis rendue une seconde fois à la police et je leur ai signifié que ce n'était pas moi. Mais j'étais très stressée parce que je me suis demandé si on n'avait pas mis le véhicule à mon nom, celui qui avait été acheté via le crédit. Et auquel cas, si le véhicule était à mon nom, s'il y a un accident, je pouvais me retrouver responsable. Donc, il a vérifié que le véhicule n'était pas immatriculé à mon nom. Et donc, dans mon cas, j'ai eu de la chance, il ne l'était pas.
D'accord, effectivement, c'est quelque chose qui doit faire terriblement peur, Jérôme Bertin, d'imaginer que quelqu'un puisse commettre un accident, tuer quelqu'un avec un véhicule et un permis de conduire à votre nom, mais qui n'est pas vous, quoi.
Oui, bien sûr, puisque là, notre témoin, Marine, a dû tomber en plus sur des escrocs organisés. Il faut savoir qu'évidemment, les escrocs vont entre eux se donner les identités, ou revendre même les identités qui ont été volées. Donc c'est là où, quand on parle de vigilance, et du coup, il faut redoubler d'attention à la suite de ça, maintenant que, et je pense que c'est le cas de Marine, ce qui est sans doute très dur à vivre psychologiquement, c'est que en effet, on se pose la question demain de ce qui va se passer. Ça peut être des délits, ça peut être d'autres types de situations qui vous tombent dessus.
Et ça, c'est effectivement très inquiétant. Je voudrais qu'on prenne Patrick également, qui est en ligne en direct avec nous. Bonsoir Patrick.
Oui, bonsoir Isabelle, bonsoir à tous vos auditeurs.
Merci à vous aussi de témoigner. Vous aussi, comme Marine, vous avez vécu quasiment la même chose. Hein. Vous aussi, après le dépôt d'un dossier de location, vous aussi, ça a été très compliqué et ça l'est encore. Quels enseignements est-ce que vous en tirez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes davantage vigilant?
Effectivement, oui, je suis davantage vigilant. Donc c'est vrai que maintenant, je conseille même pour louer un appartement, de voir la personne, enfin de remettre les documents en main propre et de ne pas envoyer un dossier par internet parce que un mail, parce qu'on ne sait jamais, on peut tomber sur une personne mal intentionnée qui peut utiliser toutes les données, tous les documents qu'on a fournis pour effectivement louer un appartement ou enfin
Oui, à l'avenir, vous allez, j'imagine, faire très, très attention quand vous faites ce genre de démarche, parce que vous avez, en plus, vous avez vu vos comptes bancaires vidés. Ça doit faire un choc quand même un matin quand on va sur son site internet de la banque et qu'on se rend compte qu'on n'a plus du tout de sous.
Oui, effectivement, ça fait un choc. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Donc, je suis allé à ma banque, je suis allé dès que...
Vous avez demandé qu'est-ce qui se passait, où sont passés mon argent, oui.
Oui, voilà, c'est ça. Et donc, ils m'ont indiqué que c'était un cabinet d'huissier, un huissier qui m'a fait une saisie d'attribution.
Ouais.
Donc, moi, j'ai contacté l'huissier pour savoir pour quel motif.
Oui, pour lui demander ce qui s'était passé. Ouais.
Ce qui s'est passé, effectivement, il me dit que vous avez été jugé. Vous êtes jugé et vous êtes condamné à payer des loyers, des loyers impayés.
Ouais. Marine, je voudrais qu'on revienne vers vous parce que vous nous avez parlé effectivement de votre première fois, de votre deuxième fois, la troisième fois, et là encore c'est pire, hein, si on peut dire, puisque il vous est arrivé la même chose qu'à Patrick. Hein. Vous avez vu vos comptes aussi qui étaient à zéro, vous n'aviez plus rien sur vos livrets d'épargne, hein. Vous n'avez plus d'argent.
Oui, exactement. Moi, c'était au mois de janvier de cette année. J'ai ouvert mon application bancaire et tous mes comptes étaient à zéro. Et donc là, ça a été la panique complète. Je n'ai pas du tout compris ce qui se passait. Et je me suis aussi rendu compte qu'effectivement, c'était dû à un huissier parce que ça s'appelait saisie attribution. Mais j'ai vraiment complètement paniqué. Et la chance que j'ai eue dans mon malheur est que la banque en question, enfin ma banque est la banque de mon papa. Donc j'ai pu remonter les informations encore plus vite, avoir le pourquoi du comment. Et ensuite, j'ai contacté l'huissier et l'huissier m'a indiqué qu'en fait, il y avait eu un autre prêt souscrit en mon nom.
Un crédit à la consommation.
Un crédit à la consommation pour acheter une voiture aussi de 20 000 euros. Et qu'en fait, la banque m'avait poursuivi et un jugement avait été rendu. Et donc, j'ai été condamnée à verser les 20 000 euros pour les rembourser.
Marie-Camille Heck, qu'on comprenne bien, quelqu'un simplement avec ces données qu'on a fournies sur Internet peut contracter un crédit à la consommation sans qu'on en soit informé. Ou que la banque nous dise, tiens, c'est bizarre, vous avez contracté un crédit, c'est bien vous. C'est curieux quand même.
Oui, tout à fait. Malheureusement, très souvent, les victimes s'en rendent compte très tard. Soit parce qu'ils font l'objet de saisies sur leur compte, comme c'est le cas de Marine et Patrick, soit, ce qui est très difficile aussi, lorsqu'ils, dans le cadre de leur recherche d'achat, d'acquisition, au moment où ils vont faire une demande de crédit, on va leur refuser leur crédit parce qu'ils vont découvrir qu'ils sont interdits bancaires. C'est terrible. On peut avoir des crédits et ne pas être au courant. Du coup, dès qu'on a un doute, et même pour se rassurer, ce qu'on peut faire, c'est demander ces fichiers auprès de la Banque de France, le FCC et le FICP, c'est-à-dire le fichier qui concerne les chèques et le fichier qui concerne les crédits. Et on peut également faire une demande de son FICOBA auprès de la CNIL. C'est le fichier qui reprend tout l'historique de nos comptes bancaires, ouverts ou clôturés sur les 10 dernières années. Ça peut permettre comme ça de vérifier qu'il n'y a... aucune irrégularité et que tous les comptes qui figurent dans le FICOBA correspondent bien à nos comptes.
Vos comptes, ouais. Oui, Rimena Diaz, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, et puis d'un autre côté, donc ça c'est peut-être pour donner une lueur d'espoir sur ces cas-là, ce qu'on voit aussi de notre côté, c'est de plus en plus de banques, de plus en plus de sociétés de crédit qui envisagent d'utiliser des services pour vérifier en ligne l'identité des personnes au moment de l'ouverture d'un crédit. Et donc là, comment ça se passe? Essentiellement, on demande sur le moment de prendre une photo de la pièce d'identité, de faire un selfie ou une vidéo. Et on vérifie que la pièce d'identité, c'est une vraie pièce d'identité, qu'elle n'a pas été retouchée avec de l'intelligence artificielle, avec un certain nombre d'éléments qui nous permettent de nous assurer qu'on est face à une vraie pièce. Et puis, on vérifie aussi qu'on est face à une vraie personne et que la photo de la pièce d'identité et la photo de la personne correspondent.
Ouais. Alors, je vais peut-être poser une question bête, mais finalement, est-ce qu'il ne suffit pas de refaire sa carte d'identité pour que tous ces ennuis s'arrêtent, Jérôme Bertin ?
Alors, il y a la vigilance que doit avoir la victime, et j'allais dire, il y a aussi la responsabilité des différents organismes qui, assez facilement, ouvre des comptes.
Oui, oui, mais une fois que nous, crédits. On se rend compte que notre identité a été usurpée, on va porter plainte pour vol, pour perte, je ne sais pas, on change de carte d'identité et tout va bien ou pas?
Alors, la carte d'identité en elle-même, ça, je veux dire, c'est un système assez classique, mais maintenant, il y a aussi tout le vol des identités numériques. C'est-à-dire qu'on va, aujourd'hui, ça va au-delà, puisqu'on va usurper ou voler votre mail, votre identifiant,
ouais.
etc.
Donc, ça ne suffit pas, c'est ça la réponse à ma question.
Faut vraiment, le mot vigilance a été prononcé plusieurs fois, il faut que les gens soient vigilants sur ce qui apparaît. Il y a toujours une petite erreur, ouais. une adresse mail qui ne correspond pas, une répétition d'annonce comme ça, un prix du marché trop bas.
Bon,
voilà.
Malheureusement, on va devoir s'arrêter là pour ce soir, mais c'est un débat, je pense, qui a dû passionner, inquiéter aussi un petit peu nos auditeurs.
Mais on s'en sort toujours
quand
on fait
toujours.
Ce qu'il faut.
Et surtout si on prend un bon avocat comme vous.
Non, merci. J'ai aucun dossier qui ne se soit pas résolu.
Bon, mais écoutez, c'est bien de terminer sur une note optimiste. Merci à tous les trois, merci aussi à Marine et à Patrick qui ont accepté de témoigner sur ce dossier.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
On est toujours ensemble et dans le Club des idées, on va maintenant plonger comme chaque soir dans les archives d'Europe 1. 3 minutes pour comprendre, pour éclairer l'actualité, ça s'appelle Le Jour Où.
De faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Bonsoir Angèle Châtelier.
Bonsoir Isabelle.
Il y a 43 ans, tout juste, l'un des chanteurs français les plus populaires, Claude François, nous quittait.
Le 11 mars 1978, Claude François est à son domicile, au 46 boulevard Excelmans à Paris. Il est en retard pour aller à une émission de Michel Drucker. Et en milieu d'après-midi à la rédaction d'Europe 1, le téléphone rouge sonne. On sait que les pompiers sont chez lui. Quelque chose de grave est en train de se passer.
Voilà presque une heure que Pierre Lescure nous apprenait la mort de Claude François à la suite d'une électrocution dans son appartement parisien.
Claude François est décédé à 14h45. Le jour même, les fans affluent devant chez lui, abattus, sonnés, comme l'avait constaté Europe 1 à l'époque.
Ce matin, les fans se réconfortent tant bien que mal en se souvenant de leur idole et en se fredonnant dans le creux de l'oreille les paroles de ses dernières chansons.
Cette année-là,
en 15 ans de carrière, Claude François était devenu l'un des chanteurs français les plus populaires. Certains de ses fans ont même été autorisés par sa famille à se rendre dans son appartement pour un dernier hommage la veille de ses obsèques. Claude François est embaumé. Son habilleuse Sylvie Mathurin l'a vêtu d'un costume en velours bleu marine. En dessous, une chemise rose.
Et le 15 mars, donc, ont lieu ses obsèques.
C'était à l'église Notre-Dame d'Auteuil, devant laquelle des centaines de fans sont présents sous la pluie. Europe 1 y était aussi.
J'ai vu dans la foule une dame, la cinquantaine, elle pleurait. Je me suis approché, je lui ai parlé. Elle m'a dit qu'elle venait de Bruxelles, qu'elle était là depuis 3 heures ce matin. Claude François était son idole.
On vient à la maison, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux.
Et le 15 mars 1978, c'était aussi le jour où est sorti en 45 tours l'un des plus gros succès de Claude François, Alexandrie Alexandra.
Bien, merci beaucoup,
merci,
Angèle Châtelier. Et je peux vous confier qu'il y a 43 ans, à cette heure-ci, j'étais bien triste.
Vous vous en souvenez, oui.
Très bien.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, le rappel de l'actualité avec Julien Pierce et puis musique avec vous, Émilie Mazoyer. Bonsoir, Émilie.
Mon petit Magnolia Forever.
Oui, comme c'est mignon.
Vous avez
mais
eu votre cœur brisé.
Triste,
ouais. Bah oui, je comprends.
Ouais, ouais. Je comprends.
Bon. Alors, ce soir, on ne se brise pas le cœur, chère
non.
Isabelle Millet. Non, on va accueillir le seul Français nommé aux Grammy Awards, prestigieuse équivalent américain des Victoires de la musique dimanche. Il s'agit de Woodkid. Ah, Alors j'adore sa voix, son album S16, c'est une beauté. Et donc les Américains sont d'accord avec nous puisqu'il est nommé dans la catégorie du meilleur clip. Parce qu'il est aussi un réalisateur de talent, Woodkid, donc, est notre invité juste avant que les Américains nous le volent.
Et oui, j'espère qu'ils vont pas nous le piquer quand même.
Ils sont capables de tout.
Très belle soirée.
Merci Isabelle.
Bon week-end, je vous retrouve lundi dès 18h. D'ici là, on écoute Le Monde Changer.